Soft Power, le numérique et politique. Le débat, Frédéric Martel.
20h12 en direct sur France Culture, en direct d'ailleurs des studios et de la maison de la radio. Nous sommes revenus après le Salon du Livre. Salon du Livre, Livre Paris. Le numérique et politique, le débat de ce soir est consacré aux crypto-monnaies et à leur régulation. Et nous sommes pour en débattre avec Romain Pigenel, ancien conseiller à l'Elysée et consultant chez Futur.io. Eliott Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ONG. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Faut-il réguler les crypto-monnaies? Ce soir, on s'intéresse aux crypto-monnaies, d'autant plus que demain, le G20 à Buenos Aires qui commence s'intéressera à ces questions et le sujet sera au menu du G20 à Buenos Aires. Ces monnaies, ces crypto-monnaies sont nombreuses. On cite souvent le Bitcoin, mais on peut également citer d'autres monnaies comme l'Ethereum, par exemple. Aujourd'hui, un Bitcoin vaut 6 000 euros contre 16 000 il y a quelques mois. C'était auparavant l'inverse, donc il a beaucoup baissé, mais il avait aussi beaucoup augmenté. Les utilisateurs des crypto-monnaies sont croissants, certains font seulement de la spéculation, d'autres l'utilisent réellement comme monnaie d'échange. Les évangélistes, ceux qui défendent ces crypto-monnaies, mettent en avant l'aspect acéphale du Bitcoin. Contrairement aux monnaies institutionnalisées, il n'y a pas de banque ni d'autorité financière qui régule le cours de ces monnaies. Alors pour commencer avec vous, Romain Pigenel, techniquement, qu'est-ce qui caractérise l'ensemble des crypto-monnaies et quelles sont les méthodes de validation des transactions?
Alors, je crois que pour bien comprendre, il faut un peu remonter dans le temps et regarder leur histoire. En fait, c'est des monnaies qui sont apparues il y a une dizaine d'années, avec la première d'entre elles, le Bitcoin, en 2009, et qui étaient portées par des communautés d'inspiration, on va dire, plutôt libertaire, libérale,
libertaire,
ouais. Et en réaction notamment à la crise financière et ce qui avait été perçu comme étant justement une mainmise des banques, des pouvoirs financiers excessifs sur les monnaies. Et donc, à l'origine de la création des crypto-monnaies, c'est l'idée de se réapproprier le pouvoir financier et de dire on va avoir des monnaies qui ne reposent pas justement sur des banques, ni sur des États. Il n'y aura pas de banque centrale, mais elles vont être entièrement portées par des systèmes décentralisés. Et donc, elles utilisent une technologie qui s'appelle la blockchain, qui ne se limite pas aux crypto-monnaies. La crypto-monnaie, il faut faire la différence entre les deux. C'est un usage possible de la blockchain. Et la blockchain, c'est quoi en fait? C'est une forme de registre distribué. Donc, c'est un grand livre de compte sur lequel on a toutes les transactions qui sont marquées. Et à chaque fois que vous avez une transaction, elle est répliquée sur tout ce qu'on appelle les nœuds, c'est-à-dire tous les points du réseau. Ça veut dire que tous les gens qui sont membres d'un réseau blockchain, en fait, ils sont tous porteurs de la même information.
À égalité, sans hiérarchie et avec
absolument
un contrôle par tout le monde.
Voilà, d'où l'idée effectivement d'acéphalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organe central. En théorie, c'est pas falsifiable. Alors même s'il y a eu des cas effectivement de fraude dans le cas des blockchains, mais c'est quand même une technologie qui offre une grande sécurité. Et il y a derrière l'idée d'avoir effectivement une démocratie et puis une forme de liberté par rapport aux institutions centrales.
Eliott Lepers.
Oui, mais c'est une technologie à la base qui permet de la sécurité et puis de la transparence. C'est utilisé sur la question des monnaies avec aujourd'hui un écueil majeur qui est que c'est extrêmement volatile. Ça dépend à 100% de l'offre et de la demande. Donc effectivement, c'est très compliqué de l'utiliser en tant que monnaie pour payer quelque chose. Ça reste techniquement possible, mais c'est aujourd'hui l'écueil de ces monnaies-là. Et puis derrière, ça pose la question de la transparence au niveau international, au niveau de la fiscalité, parce qu'on peut échanger des euros ou des dollars en crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, et puis ensuite les récupérer ailleurs. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à taxer cet argent-là? Comment est-ce qu'on lutte contre l'évasion fiscale? Comment est-ce qu'on évite que cet argent soit utilisé pour financer le terrorisme ou des activités illicites? C'est toutes ces questions-là qui sont soulevées.
Globalement, transparence dans un secteur qui est par nature et même par définition l'opacité même.
C'est le grand paradoxe, c'est qu'effectivement, on pourrait se dire, génial, on apporte comme prérequis la transparence avec l'usage de ces crypto-monnaies, et en même temps, aujourd'hui, ça pose un vrai problème aux banques, parce que leur modèle économique repose sur l'opacité, sur le secret bancaire, et donc il y a une forme d'hypocrisie qui se met en place, parce qu'aujourd'hui, les banques essayent justement de recréer de l'opacité dans l'usage de ces blockchains qui constituent de ces crypto-monnaies, qui constitue une opportunité économique pour elles, mais avec ce risque. Donc finalement, le plus grand avantage des crypto-monnaies est à la fois leur plus grand inconvénient dans le secteur économique tel qu'il existe aujourd'hui.
Alors, est-ce que l'absence de régulateur, de régulation, est intrinsèque aux crypto-monnaies? Est-ce qu'il est possible de les réguler? Et si oui, comment est-ce que cela pourrait se faire?
D'abord, la question, c'est est-ce qu'il est souhaitable de les réguler? Et là, effectivement, il y a une position qu'il faut arriver à établir. C'est-à-dire que d'un côté, on voit bien, comme je disais, qu'il y avait un projet initial qui était peut-être très sain dans sa façon de faire, si en tout cas on partage la vision libérale. Et puis après, il y a une réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation, effectivement. Et puis, il y a des types d'opérations financières qui sont possibles, notamment une opération dont on entend beaucoup parler depuis un an qui s'appelle l'ICO, qui s'appelle Initial Coin Offering. Et en fait, ça consiste à déclarer qu'on crée, alors pour simplifier vraiment, et j'excuse par avance les auditeurs qui sont très spécialistes et qui pourront penser que que c'est un peu simplifié, mais donc en fait, on crée une nouvelle crypto-monnaie et on propose, on la met sur le marché et on propose en fait à n'importe qui de venir se porter acquéreur un certain nombre de tokens. Ce qu'on appelle les tokens, c'est donc des jetons, des constituants de cette monnaie-là, qui après va donner droit en fait à avoir à droit aux services qui sont portés par la blockchain qu'il y a derrière, Cyan Blockchain, et puis sans avoir de droit sur le capital. Donc c'est une opération financière qui a explosé depuis quelques mois, parce qu'en fait, quand vous voulez financer un projet de start-up ou autre, sans avoir derrière des gens qui vont devenir propriétaires de votre capital, c'est hyper bien, parce que vous dites, voilà, j'offre, je mets en vente tant de tokens de crypto-monnaie, venez les acheter, derrière vous n'aurez aucune contrepartie, sinon vous serez propriétaire d'une monnaie qui peut-être plus tard va valoir beaucoup d'argent. Donc on voit que, alors d'abord c'est un moyen intéressant de financer l'innovation, mais derrière on retrouve toutes des techniques habituelles, on va dire, de spéculation, aussi d'arnaque. Il y a eu pas mal d'opérations qui ont défrayé la chronique, j'en parlais juste auparavant, par exemple il y a eu un lancement de crypto-monnaie qui était porté par Steven Seagal aux États-Unis, donc avec derrière des choses un peu floues, on voyait bien qu'il y avait un risque d'avoir des acheteurs qui étaient floués. Et puis plus largement, on voit aujourd'hui, notamment en France, que il y a toute une dérégulation qui est en cours. Il y avait eu une vidéo qui avait défrayé la chronique où on voyait Nabila qui faisait la pub du Bitcoin en disant en acheter, c'est vraiment sans risque. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on investit dans ce type de placement, derrière, s'il y a le moindre problème, on perd tout et il n'y a évidemment aucun filet de sécurité. Et ce que peuvent apporter en bien d'habitude les banques centrales.
Donc réguler, c'est aussi peut-être un moyen d'étendre l'utilisation de ces monnaies au plus grand nombre en les rendant plus secure ou en disant que, enfin, en évitant les craintes qui évidemment existent sur ces secteurs-là, Eliott Lepers.
Mais aujourd'hui, il faut bien savoir que c'est des monnaies qui n'ont pas cours légal. C'est-à-dire que vous n'êtes pas protégé par les directive européenne de protection du consommateur si vous achetez avec des crypto-monnaies, quoi. Donc effectivement, c'est très compliqué d'imaginer qu'on puisse les utiliser. Il y a un mouvement qui est intéressant, c'est celui des stable coins, donc les pièces stables, quoi, qui seraient indexées sur des valeurs plus stables, telles que le dollar, par exemple. Et donc ça rendrait possible l'utilisation de ces monnaies dans les transactions avec un cours qui soit cohérent d'une journée à l'autre. Et donc effectivement, à ce moment-là, ça peut être utilisé. Et donc après, il y a une régulation nécessaire à plusieurs niveaux, parce que la régulation, elle est valable en fait quand on rentre dans les crypto-monnaies ou quand on en sort. C'est ce qu'on appelle les bureaux d'échange en fait. C'est des bureaux de change quand vous achetez du bitcoin ou autre chose avec des euros et quand vous revendez des bitcoins pour des euros. À ce moment-là, on peut réguler pour savoir, eh bien, tout simplement, si vous allez placer tout votre patrimoine en bitcoin et que du coup vous ne le possédez plus en euros, est-ce que vous êtes encore imposé sur ce patrimoine ou pas. Donc c'est ces questions-là qu'il faut soulever à la fois sur la fiscalité nationale, sur l'impôt sur le revenu et puis également sur les fiscalités européennes. Et puis après, toute la lutte contre la fraude fiscale, contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme. Et là, c'est des registres bancaires internationaux et il faut les appliquer.
Et quel acteur pourrait réguler les crypto-monnaies, sachant que, et quelle est la meilleure échelle au fond pour le faire, puisque réguler des monnaies qui sont par nature déterritorialisées, quel est le droit qui peut s'appliquer?
Il faut agir à différents niveaux. Il y a déjà effectivement une problématique d'information. Alors on a la chance en France d'avoir notamment sur le web beaucoup de sites bien faits par des acteurs associatifs comme le Cercle du Coin, comme la Maison du Bitcoin, qui font de l'information. Donc ça, c'est une première chose sur laquelle il faut monter en puissance pour éviter les arnaques qu'on voit monter. Moi, ça me fait rire parce qu'avant, quand on voyait les pubs qu'il y avait sur certains sites d'information ou sur Facebook, c'était pour sur des actifs faciles à acheter. Maintenant, c'est acheter du Bitcoin. Donc déjà, faut augmenter l'information. Après, il faut, et c'est ce qui a commencé à, il y a commencé à avoir des mouvements, notamment de l'ordre de l'AMF, il faut regarder les sites d'échange sur lesquels on peut faire effectivement de l'achat de crypto-monnaies pour vérifier aussi que ça soit fait dans les règles de l'art et qu'il n'y ait pas justement qui n'échappe pas aux réglementations qu'on a d'habitude sur les achats d'actifs. Et d'ailleurs, il faut peut-être oublier ce terme de crypto-monnaie et plutôt parler de crypto-actifs parce qu'on est plus proche finalement d'une forme de placement financier que vraiment de monnaie.
Des sites comme Kraken, etc., dont on peut après, on a du mal souvent à voir quel est le pourcentage qu'ils prennent, comment est-ce qu'on peut revendre, etc.
Voilà, absolument. Et puis sur les phénomènes dont on parlait d'ICO, donc qui prennent une grande importance, il faut aussi veiller à ce que quand ils ressemblent justement à des opérations boursières, ben ils soient soumis au même type de contrôle pour éviter des fraudes comme il y a pu avoir. Il y a eu par exemple une énorme fraude, pas en France, aux États-Unis, il y a quelques semaines, avec une initiative qui s'appelait le BitToken, qui est en fait une entreprise qui se lançait et qui essayait d'uberiser Airbnb en ayant une forme de partage de maisons portée par
Uberiser Airbnb, voilà. Avec des crypto-monnaies.
De la méta-uberisation. Et il y a eu un scam très classique qui a été lancé, c'est-à-dire qu'il y a des petits malins qui ont créé une adresse mail qui ressemblait, voilà, étonnamment à celle des comment ça s'appelle, des personnes qui étaient derrière l'opération et qui ont comme ça avalé des millions de dollars. Donc on voit des méthodes de fraude financière classique qui pourraient être évitées ou en tout cas régulées si ce genre d'opérations qui sont en fait des opérations de financement boursier assez classiques dans la forme étaient un peu plus contrôlées par les acteurs qui le font d'habitude.
Et Eliott Lepers,
on est dans un moment un peu fou, effectivement, n'importe quel acteur acteurs privés, publics, individuels, voilà, peut créer ce genre de monnaie, peut appeler n'importe qui à venir acheter des bitcoins ou autres. Et donc effectivement, c'est un moment où il y a beaucoup de dérives. La question, c'est comment est-ce qu'on utilise cette dynamique nouvelle, effectivement, dans un secteur
pour que ça soit positif,
pour que ce soit positif, parce que ça apporte plein d'aspects. La question de l'anonymat, pourquoi pas, notamment sur une dimension politique ou pour échapper à une certaine forme de surveillance, elle est intéressante, mais il faut la limiter avec des plafonds de dépenses. Voilà, il faut voir ce que ça va donner, et puis derrière, il faut surtout éviter que ce soit au service de la criminalité financière. C'est la principale question pour moi.
Et je crois que ce qui est important aussi, c'est voilà, de ne pas faire la légende noire des crypto-monnaies, c'est-à-dire que, comme on disait, il y a des risques, mais qui sont en fait des risques spéculatifs, je dirais, qui apparaissent de manière classique à chaque fois qu'il y a des nouvelles formes d'actifs financiers qui apparaissent. Après, il y a aussi des avantages. Ça peut être des technologies qui peuvent permettre de donner l'accès, justement, à l'achat en ligne, à des populations, notamment dans les pays en voie de développement où le système bancaire n'est pas assez développé. Ça permet aussi, comme le disait Elliot, puisque ce sont des monnaies alors, qui ne sont pas vraiment anonymes, mais des monnaies pseudonymes, puisqu'en fait, sur la blockchain, tout est tracé par des adresses. Par contre, l'adresse n'est pas forcément connectée à une entité. C'est pour ça qu'on parle de monnaie pseudonyme plutôt qu'anonyme. Mais ça peut aussi être un gage, justement, de protection dans des pays pour faire circuler de l'information, faire remonter de l'information à des journalistes, etc. Donc, c'est important de ne pas confondre, je crois, le côté spéculatif qui concerne une partie des crypto-monnaies et puis la technologie derrière la blockchain qui a des propensions, un potentiel merveilleux pour justement remplacer ce qu'on appelle les tiers de confiance, que ce soit des banques, des institutions notariales, etc., simplifier des industries entières et puis donner l'accès, comme on le disait, à des services, à des populations qui n'en ont pas. Il y a un exemple classique d'utilisation de la blockchain, pour terminer, qui est de mettre en place des cadastres dans les pays qui n'ont pas de cadastre ou pas d'administration assez fort pour le faire. Donc voilà, ça c'est la partie, je dirais, submergée de l'iceberg, qui est très importante, qui ne doit pas être noyée avec l'eau du bain quand on critique les dérives spéculatives liées uniquement aux crypto-monnaies.
Elliot Lepers.
Non, mais c'est la capacité à recréer de la confiance à la base qui est permise avec cette technologie, à recréer une possibilité d'échange qui soit réglementée entre des individus. Et effectivement, c'est ça qui est nouveau. Et c'est ça qui est une évolution dans l'échange d'informations sur Internet et qui est rendu possible avec cette blockchain. Ça est appliqué actuellement principalement sur la question monétaire, mais il y a plein d'applications dont il faudrait qu'on consacre plusieurs émissions à venir.
Est-ce que l'un de vous deux a des crypto-monnaies?
Moi, pas du tout.
Non plus. On est de l'ancien monde.
Moi, j'ai un Dash. C'est une crypto-monnaie parmi d'autres. Elle varie aussi beaucoup, hein, d'un jour à l'autre. Ouais. Les sommes varient. Donc, c'est intéressant de voir comment c'est très compliqué pour les acheter, c'est très compliqué pour les revendre. C'est en même temps assez compliqué de suivre un marché qui évolue chaque jour. Donc,
Il y a une énorme industrie sur la conservation, tout simplement, aussi de ces monnaies. Il y a des histoires de personnes qui avaient acheté il y a plusieurs années des bitcoins et qui aujourd'hui ne les retrouvent pas. Donc, effectivement, comment est-ce qu'on les sécurise? Parce qu'il faut garder
cette clé. C'est souvent sur une application avec des codes, tout simplement.
Exactement. Enfin, il y a une société française qui s'appelle Ledger qui vient de lever 75 millions d'euros pour justement développer un porte-monnaie physique. C'est une forme de clé USB protégée sur laquelle vous pouvez stocker vos crypto-monnaies. Donc, effectivement, c'est une nouvelle manière de consommer l'argent, de stocker l'argent, qui est aujourd'hui principalement spéculative. Et moi, c'est ça la limite que je vois. En revanche, ça ouvre un potentiel de confiance. Et c'est ça qui est vertueux.
Alors, il y a aussi beaucoup de difficultés pour se les procurer parce que, par exemple, les banques refusent très souvent aujourd'hui, selon les banques, elles ne vous autorisent pas à pouvoir avoir des virements vers ces sites qui vendent ces crypto-monnaies. Donc, il y a tout un contrôle et tout ça est évidemment très opaque.
Et en fait, c'est pour ça aussi, Gérard Rebourg, c'est important qu'il y ait une régulation. C'est pour permettre justement de calmer le jeu et de faire en sorte qu'il puisse y avoir une normalisation de l'usage crypto-monnaie. Alors, dans la communauté crypto, c'est vrai que c'est ce qui est ressenti un peu comme étant une intrusion de l'État extrêmement critiqué, parce que c'est vrai, comme on le disait au début, que c'est une communauté qui est portée par une idéologie très libérale, libertaire, mais il y a aussi un point positif à cette régulation qui se met en place, si elle n'est pas excessive et si elle est faite, et je crois qu'en France, ce sera plutôt le cas dans une forme d'intelligence et de compréhension de ce qui est en jeu, ce qu'elle permettra de rassurer beaucoup de monde et d'avoir derrière, probablement, une adjonction de ces monnaies-là au système de monnaie classique. Moi, je ne pense pas qu'on aille vers un remplacement d'une à l'autre, on va plutôt avoir, pour des usages différents, la survivance et le développement de ce genre de monnaie à côté des monnaies classiques, parce qu'elles n'ont pas, à mon avis, vocation à les remplacer.
Pour conclure, un mot, Elliot Lepers.
Moi, je suis très sceptique aujourd'hui parce qu'effectivement, on est vraiment dans une forme d'aveuglement, quoi. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est le paradigme qui évolue. C'est le paradigme sur ce sujet qui paraît très obscur, de voir cette appropriation populaire, parce qu'aujourd'hui, il y a des millions d'euros qui sont investis par des particuliers français. Et donc, c'est une découverte d'une nouvelle norme d'échange, quoi. Et ça, je trouve que c'est intéressant sur une forme de littératie numérique, quoi, de compréhension d'une nouvelle forme d'Internet, d'une certaine manière. Et justement, justement, dans un Internet qui est de plus en plus préempté par des plateformes privées, par des acteurs qui centralisent, de voir ces nouvelles technologies qui vont à contre-courant de cette dérive-là et donc de cette mort, d'une certaine manière, de l'idée initiale d'Internet, je trouve que ça, c'est très positif. Et donc, c'est plutôt comment est-ce qu'on construit politiquement autour de cette technologie des projets qui permettent peut-être de retrouver, de revenir à certaines sources originelles de ce qu'a été Internet.
Et puis ça répond aussi probablement, on parlait de l'emballement sur les ICO, il y a un côté négatif, mais ça répond aussi probablement à une volonté d'investir plus facilement pour des personnes qui ont envie de participer au financement de start-up, financement de la nouvelle économie. Et peut-être finalement que si ça marche tellement et tellement fort, c'est parce que les moyens de financement habituels ne sont pas forcément adaptés à la modernité, à comment les gens aujourd'hui veulent utiliser leur argent, veulent investir, y compris dans les start-up. Donc je pense que ça doit aussi être un motif de réflexion pour les acteurs financiers classiques.
Merci à tous les deux, on en reste là pour ce soir. Merci à vous Romain Pigenel, ancien conseiller de François Hollande et consultant chez Futur.io. Merci Elliot Lepers, entrepreneur fondateur de l'ONG, le mouvement.ong.